Bonjour Olivier Landron, j'aimerais revenir aujourd'hui sur le profil et les parcours des fondateurs de communautés nouvelles. Ont-ils des points communs ?
Si on prend le cas des communautés de type religieux, il y a déjà les fondateurs eux-mêmes qui sont des religieux, le père Philippe pour la congrégation Saint-Jean, et qui, dans leur tradition communautaire, donnent naissance à une nouvelle branche. Bon. Plusieurs fondateurs sont des prêtres diocésains et qui eux-mêmes sont attirés par une vie communautaire depuis longtemps. Et qui un jour ou l'autre vont donner naissance à un groupe, puis à une vraie communauté. Alors plusieurs ont créé d'ailleurs des communautés charismatiques, c'est pour ça que la cloison n'est pas complètement étanche. Je pense au père Hubert Chalmandrier pour la Croix Glorieuse, mais il y a d'autres exemples comme ça. Et puis alors, dans les communautés charismatiques, il y a beaucoup de convertis du protestantisme au catholicisme. Ça a été le cas surtout pour Gérard Croissant, qui a fondé les Béatitudes, mais parfois conversion, je dirais passage presque du paganisme au christianisme ou au catholicisme. La conversion, à mon avis, est un élément important dans le portrait qu'on pourrait dresser de ces fondateurs.
Qu'est-ce qu'on peut dire de leur vie d'avant ?
Alors beaucoup aussi, qu'ils soient religieux ou pas, ont été quand même des enseignants, et d'autres aussi, pas mal, sont passés par ce que j'appellerais la filière socio-culturelle. Ils ont été souvent animateurs socio-culturels, animateurs, éducateurs spécialisés, etc.
En termes d'origine socio-culturelle, est-ce qu'il y a des points communs ?
Je dirais que c'est représentatif, à mon avis, de ce qu'est le catholicisme en France. C'est globalement des personnes qui sont issues des classes moyennes et ou de la bourgeoisie, voire parfois de l'aristocratie aussi.
De nombreux fondateurs semblent avoir été influencés par les États-Unis.
À l'origine, effectivement, de ce mouvement charismatique en France, il y a l'église pentecôtiste. Elle est issue d'un réveil, comme on dit classiquement dans le protestantisme, et c'est un réveil qui est né en 1900, et c'est une église qui va très vite se séparer des autres églises protestantes, qui va être accusée de sectarisme d'ailleurs, mais ça c'est assez fréquent dans ces développements de ces églises protestantes. Elle va pas tellement se développer entre 1900 en gros et 1950. Dans les années 50, elle va s'ouvrir à l'œcuménisme en entrant en contact avec les églises protestantes historiques, puis l'église catholique, par l'intermédiaire de groupes de prière, où on va voir des catholiques de plus en plus fréquenter ces groupes pentecôtistes ou pentecôtisants. Après, évidemment, il va y avoir tout un travail d'un certain nombre de théologiens catholiques, avec surtout le cardinal Suenens, pour essayer de catholiciser ce renouveau en mettant l'accent principalement sur les sacrements.
Comment est-ce que les futurs fondateurs français ont eu connaissance de ces évolutions aux États-Unis?
C'est un jésuite américain, Mike Audrey, qui a fait connaître le renouveau, en particulier à Bertrand Lepezan et à Laurent Fabre, qui ont créé respectivement le Puy de Jacob et le Chemin Neuf. Donc ça, c'est une provenance directe des États-Unis. Et puis, ces fondateurs, donc, qui ont quand même été nourris de la littérature américaine sur les communautés nouvelles, je pense au grand leader américain Ralph Martin, Steve Clark, essentiellement. Ils ont ressenti la nécessité, alors là c'est assez précis, c'est en 1976 et en 1977, d'aller découvrir comment ce renouveau charismatique se situait aux États-Unis. Et ils ont même affrété un charter. Dans ce charter, il y avait déjà un certain nombre de fondateurs ou alors de personnes qui allaient fonder. Et il y a eu deux voyages comme ça durant les étés, donc 1976-1977. Donc ils sont allés à l'Université Notre-Dame, ils sont allés à la paroisse Providence, enfin, étaient déjà les grands centres catholiques charismatiques.
Concrètement, vous pouvez me donner un nom ou deux de ces personnes, c'est quand même amusant, qui ont partagé le même charter?
Oui, il y a eu Georges Bonneval, ça c'est le verbe de vie, tous les responsables de l'Emmanuel y étaient. Et je pense qu'il y avait Guy Schremsdorfer qui a fondé l'Épiphanie et la Croix à Lyon.
Est-ce qu'alors on peut parler d'une influence directe du protestantisme?
Dans la majorité des cas, lors du voyage de 1976-1977, les fondateurs sont allés voir des communautés charismatiques catholiques. Et il y en a quand même certains qui ont été en contact avec Denis Bennett, c'est un pasteur protestant. Et ça qui est intéressant à voir, c'est que la plupart de ces fondateurs, au départ, étaient très œcuméniques, puisqu'ils savaient ce qu'ils devaient aux protestants, entre guillemets. Par contre, avec le temps, Et dans les années 80, on va voir plusieurs de ces communautés-là, je dirais pas se couper de l'œcuménisme, mais devenir très réticentes. C'est le cas de l'Emmanuel, qui va couper beaucoup de liens avec le monde protestant, alors qu'au départ, ses principaux responsables ont été très en lien avec le monde protestant américain. Les béatitudes, c'est pareil. Gérard Croissant, le fondateur, est protestant au départ, mais à partir des années 80, ça devient très catholique, enfin, ça devient catholique tout court.
Aucune communauté n'est restée œcuménique ?
Il y a des exceptions, des communautés qui se sont battues au sein du renouveau pour garder cette spécificité œcuménique. C'est le cas du Chemin Neuf, puis de Jacob et aussi Fondation. Ce sont des communautés qui encore aujourd'hui intègrent quelques protestants et ont une ouverture, je dirais, vers le monde protestant et anglo-saxon.
Mais si je reviens sur ceux qui ont développé des réticences, ça s'explique comment ce changement vers une ligne plus radicale, si on peut dire ?
Pour l'Emmanuel, c'est clair, c'est là l'influence, je pense, de l'ordre dominicain. Puisque dans les tout premiers, il y a le père de Montléon, c'est quelqu'un qui avait des liens importants avec le monde protestant aux États-Unis, qui faisait une étude là-bas, mais avec le temps, il me semble que lui a joué un rôle très important dans l'insertion catholique de la communauté. Et puis la formation reçue est devenue assez vite assez classique sur un plan théologique, spirituel, et avec aussi le fait de se tourner vers les dévotions traditionnelles. L'arrivée à Paray-le-Monial, c'est pas le fruit du hasard, c'est le culte du Sacré-Cœur, mais c'est aussi très catholique. Donc là, effectivement, il y a une orientation qui se prend entre le milieu des années 70 pour l'Emmanuel et le début des années 80. Par contre, comme je vous disais, il y a d'autres fondateurs qui ont voulu garder l'origine œcuménique. Donc ça a été cause parfois de conflits, de divergences en tout cas, entre les fondateurs.